J'y vais là? Mais y a pas eu le générique. On met pas le générique avant? Les gens, ils vont pas savoir que c'est Brasero. Ah, pour casser le rythme de l'émission. Ok. Oui, j'y vais. Attends, c'est speed comme ça. Bon, alors voilà, en fait. Alors qu'on préparait une émission sur le rythme, je me retrouve dans un endroit où j'ai mes habitudes et je me retrouve à un ami qui a des origines, on va dire, rurales. Et il me raconte cette légende, donc rurale. Il y a longtemps, quand les tracteurs étaient à deux temps, oui, il paraît que les tracteurs étaient un moteur deux temps, tout. Il paraît que les agriculteurs à l'époque étaient en montant sur leur tracteur qui faisait tout. Eh bien, leur cœur commençait à prendre le rythme du moteur deux temps, tout. Ce qui déclenchait arythmie, problèmes cardiaques en tout genre, etc. La machine leur avait bouffé le cœur. Légende ou vérité? C'est un appel à nos auditeurs et à nos auditrices. Si vous connaissez cette histoire, dites-nous.
Le rythme en évitant de mourir d'une crise cardiaque. Aujourd'hui, à Brasero, on va parler de rythme. Franchement, nous on est bien, on est plutôt chanceux. Du coup, on est allé faire des entretiens.
Ah mais d'ailleurs, tu l'as eu au téléphone là? Tu sens qu'il y a moyen ou...
Arrête, je sais pas, on va se voir la semaine prochaine, c'est pas gagné.
Ah ouais, mais vous parlez de qui là?
Oh putain, désolé du retard, du coup vous êtes prête? Là le fil il est fait et tout, on enregistre maintenant?
Ah bon, mais c'est aujourd'hui?
Je sais pas, on avait dit aujourd'hui ou la semaine prochaine, je crois.
Franchement, à Brasero, on est bien dans le rythme.
Allez, vas-y, on a fait aujourd'hui. Qui veut écrire l'intro?
Bon, alors, ce soir, on va écouter des variations subjectives sur nos temporalités, un entretien sur le rythme comme outil d'oppression, un extrait de texte sur l'usine, et le tout agrémenté de pas mal de musique.
Ah, ok, on est bon, là?
Bah ouais, bonne écoute.
Brasero rythme, c'est pas gagné.
Un rythme. C'est quoi un rythme? Bon, alors moi, j'ai une gosse sous la main, ça tombe bien, elle se met au violon. Attention, les oreilles. Mais je vais lui demander alors. C'est quoi un rythme?
Un rythme? Bah, les noirs, elles ont un temps. Les noirs durent un temps. Alors tu dois faire, bon, peut-être un peu plus d'une seconde.
Être dans le rythme pour toi, c'est...
En fait, tu vois, t'as très bien d'avoir combien ça va faire.
Métronome.
Oui, voilà, un métronome. Parce que tu vois, dès que ça fait 1, je fais sol 1. Là, il y a 1 qui est passé, alors... 1, ré, chute, ré, 1, chute, 1, la chute, ré, la chute, la chute, bah le chute 1, mi, 1, chute 1. Et les blanches, c'est pour ça. Les blanches, elles durent 2 temps. Les blanches pointées, elles durent 3 temps. Les rondes, elles durent 4 temps. C'est ça un rythme. C'est un peu comme si mon rythme, ça serait sol, sol, sol blanche et sol, sol noir, comme ça. Tu reconnais la différence? Ça voit la différence, c'est ça, entre les blanches et les noires. Et les blanches pointées et tout le reste.
Ben voilà, non, c'est plus clair quand même. Chut, un, chut, un, chut, un, chut, un, chut.
Bras au rythme, en avant la musique.
Si le rythme détermine la durée
des notes, il exprime aussi un comptage du temps. C'est la notion de durée au travers de laquelle
si le rythme détermine la durée des actions, il exprime aussi un découpage du temps, un comptage du temps. C'est la notion de durée au travers de laquelle se succèdent les choses dans un laps de temps donné.
La mesure, elle, permet de découper un moment
la mesure, elle, de temps équivalent. Permet de découper un morceau de portion de temps équivalent.
De celui-ci.
La Comme mesure, elle, la partition, permet de découper un moment une en portion de temps équivalent. Comme elle découpe le temps, elle amène une organisation de celui-ci. La démesure, en revanche, ne signifie pas l'absence de rythme, mais le manque de mesure dans les sentiments, les attitudes. Elle est synonyme d'excès, d'outrance. Elle implique d'être en dehors de la partition normale, normée, de l'intensité des choses. Libris est une notion du grec ancien pour dire la démesure. Elle se traduit aussi par orgueil, outrage, agression, insolence, transgression. La conception de libris comme faute détermine la morale des Grecs comme étant une morale de la mesure, de la modération et de la sobriété. Obéissant à l'adage du panmétron, qui signifie littéralement « de la mesure en tout », c'est-à-dire jamais trop et toujours assez. L'homme doit rester conscient de sa place dans l'univers, c'est-à-dire à la fois de son rang social dans une société hiérarchisée et de sa mortalité face aux dieux immortels. Jouer à côté du rythme imposé par la société, sa morale et sa hiérarchie,
orgueil,
est une faute ou un choix, outrage. Choisir de découper le temps et donc de l'organiser,
agression,
en mesure subjective, individuelle ou collective,
insolence,
battre la mesure en dehors du panmétron, du métronome,
transgression.
Chers amis brasiéristes et chères oreilles radiophoniques, je ne parviens pas à me mettre dans le rythme de cette émission. Je ne suis pas dedans, je me replie, je me confine à l'intérieur de moi et ça bouscule mon rythme. Celui d'un temps que je remplis frénétiquement pour colmater l'angoisse du vide. Parfois, il y a des règlements, on capte plus les bonnes ondes, ça grésille et ça pète les tympans, le temps de se régler de nouveau sur la bonne fréquence. Pourtant, j'aime bien trouver les mots et les mettre en musique, accorder la parole en rime et exploser dans le silence de nos vies arythmiques. Nécessairement, je suis rattrapée par le temps, les choses à rendre, les engagements. Et heureusement, parce que sans ce rythme, je serais sans doute perdue dans un ailleurs inconnu, dans les bas-fonds de mon âme, sans vie, sans envie, sans projet, sans projection, sans sens et sans existence. Parce que le rythme, c'est la vie, les pulsations du cœur, le souffle, le battement, la lenteur et la rapidité, la cadence, le repos, les secondes, les minutes, les années, les arrêts. Alors, Brasero me fait tenir la barre, maintient mon rythme à la surface le temps, d'une émission le temps d'un confinement même quand, les discours dominants sont rythmés par les cons. J'attends la discorde, les dissidents sont sombres et incertains. J'ai pas le rythme et je l'entends au loin. Je prends le rythme et me voilà au loin. J'ai pas le rythme et je l'entends au loin. Je prends le rythme et me voilà au loin. J'ai pas le rythme et je l'entends au loin. Je prends le rythme.
Dans 4 jingles, il nous en faut 6. À un moment donné, on pourrait en faire 15 par quart d'heure. Et ça ferait qu'en fait, on en aurait 30 par demi-heure.
S'il y en a 15 par quart d'heure, ça fait 1 par minute.
Après, non, mais après, c'est un coup d'aller vers le burn-out, là.
Non,
pas du tout. Il suffit de tenir
rythme. Non, pas par minute, par quart d'heure. Je ne sais plus.
Par quart d'heure, 15 par quart d'heure, ça fait 1 par minute.
Non, mais il faut le faire, en fait. Il faut qu'on s'y mette, là.
Bras zéro. Ça marche.
Bras zéro rythme.
La construction et la vision qu'on a du temps, eh ben, elle va être façonnée par des points de vue. Et en général, c'est un point de vue dominant qui va faire. Par exemple, je sais pas, moi, ça me tue que les trois quarts de la planète se posent même pas la question de comment ça se fait que l'an zéro, c'est la naissance de Jésus. Bon, à un moment donné, c'est une vision du temps qui a été donnée, qui a été actée, et qui dit le monde, il commence à ce moment-là, et du coup, le monde doit commencer à ce moment-là pour tout le monde. Alors même qu'il y a plein de peuples et plein d'histoires qui sont bien plus vieilles, et d'autres qui commencent plus tard, j'en sais rien. Mais il n'empêche. Je pense que la question du temps, du rythme que j'inclus dans la question du temps, elle m'a traversée depuis toujours. Parce que, notamment, quand on grandit entre deux pays, entre deux espaces, on grandit aussi entre deux temporalités. Du coup, moi, il y a toujours eu une intuition dans mon cerveau, quelque chose qui buguait à ce niveau-là, entre le temps, comment il passait en France, il n'était pas le même que le temps, comment il passait en Tunisie. Et ça, c'est des choses que j'arrivais pas à expliquer, mais par exemple... sur le calendrier musulman, on n'est pas du tout à la même année que sur le calendrier judéo-chrétien. Le rythme de l'école n'était pas le même, étant donné, par exemple, que le vendredi, c'est le jour de la prière, c'était plutôt le jour où on n'avait pas école. Le nom des jours en arabe, le dimanche, qui est le dernier jour de la semaine dans le calendrier judéo-chrétien, en arabe, ça se dit Nahart Lahad, qui veut dire le premier jour de la semaine. Et du coup, il y a plein de choses comme ça qui venaient un peu faire des paradoxes dans le cerveau du fait d'être entre la France et la Tunisie, et que je ressentais, j'avais les sensations sans jamais pouvoir expliquer exactement c'était quoi l'effet que ça me faisait. En tout cas, je sais que je me sentais vraiment dans deux espaces différents et dans deux temporalités différentes, et qu'il y avait quelque chose d'assez irréconciliable entre les deux. J'arrivais pas à les faire communiquer. Par exemple, je comprenais pas les vacances de Noël, que la fin de l'année ce soit le 1er janvier, alors que pour moi la fin de l'année c'était l'Aïd, que plein de choses comme ça qui venaient pas coller l'une avec l'autre. Et je fais un peu par grande étape, hein. Ça c'est un peu ce qui me traverse toute ma vie, hein, mais plutôt je le lis un peu à l'enfance et à comment petite je commençais à capter un peu ce truc de ouais, tu fais pas partie du monde comme les autres, parce que en fait tu vois pas le temps comme les autres. Pour moi, les vacances, les grandes vacances, c'était pas des grandes vacances, c'était ma deuxième vie en Tunisie. Du coup, il y avait plein de choses un peu différentes comme ça par rapport aux autres personnes qu'il y avait autour de moi. Après, je pense que la deuxième grande période qui m'a fait un peu comprendre, enfin en tout cas mieux cerner c'était quoi les sensations que j'avais, c'est que à l'adolescence, j'ai été très vite confrontée ou traversée par la mort. Du coup, j'ai perdu plusieurs personnes de ma famille, etc. Et je pense que quand tu palpes la mort de près ou qu'elle vient, en tout cas, il y a quelque chose de... Il y a un truc qui se termine et du coup, ça donne une autre sensation du temps. Comme déjà le fait qu'il y a un début, une fin. Et vraiment la vraie prise de conscience de... À un moment donné, il y a une fin, il y a... Enfin, non, j'ai même pas les mots pour trop l'expliquer, mais en tout cas, je sais que ça m'a un peu marqué sur ce truc-là. Je pense que l'autre moment où je commence un peu plus à pas conscientiser l'intuition que j'ai, mais plus à la questionner, à essayer de capter vraiment profondément, ça veut dire quoi le temps, ça veut dire quoi que ce soit le rythme, les temporalités, ça veut dire quoi tous ces trucs-là, en fait c'est quoi le sens de la vie en vrai si on le dit grossièrement, entre il y a un début, une fin, ça veut dire quoi le début, ça veut dire quoi la fin, est-ce que le temps c'est une ligne comme les frises chronologiques qu'on nous apprend à l'école. Moi, j'ai jamais eu cette vision du temps-là. Moi, plutôt, c'était des ronds. Et du coup, il y avait... Enfin, ouais, déjà, cette idée de début, de fin, elle m'enfermait un peu. Et du coup, quand je commençais un petit peu plus à la questionner, en commençant à réfléchir de manière un peu plus rationnelle ou quoi, c'est quand j'étais en droit. Parce que très vite, j'ai capté que le droit, et je pense que c'est toujours ce que je crois, c'est vraiment l'appareil qu'a l'État pour gérer le temps et la temporalité des gens. Et par exemple, c'est le droit qui va décider à partir de quand t'es vivant, ou à partir de quand t'es né. Quand l'enfant, est né vivant et viable, je sais plus c'est quoi l'article, c'est le droit qui va décider à partir de quand t'es déclaré mort, c'est le droit qui va décider c'est quoi les délais qu'il faut, j'en sais rien, moi, pour aller faire un papier, c'est quoi ta carte, en fait t'es français, citoyen français, pour 10 ans, et après tu renouvelles ta carte, ou des trucs comme ça, en fait. Pour moi, quand je commence à faire du droit, c'est là où je commence à capter que, certes, parce que l'espace, j'ai l'impression que plutôt on le capte, comme c'est matériel, comme c'est palpable, on arrive plutôt à voir comment on contrôle l'espace. On dresse des murs, on met des frontières, il y a quelque chose de très matériel à figer l'espace et à rendre compte de ce qu'est l'espace. Le temps, c'est plus subtil, plus fluide. Et quand je commence à étudier le droit, je commence à capter ce truc de vraiment... toute la gestion du droit, comment elle est faite, et en vrai la nécessité du droit pour l'État, c'est de venir imposer des délais, des rythmes, en fait c'est de créer une temporalité politique et de décider c'est quoi le rythme des gens, c'est quand qu'ils sont vivants, c'est quand qu'ils sont morts, c'est quand qu'ils mangent, c'est quand qu'ils dorment, c'est quand qu'ils travaillent, c'est quand qu'ils sont majeurs, c'est quand qu'ils... enfin je sais pas, bref, tous ces trucs là et je crois qu'il n'y a pas un seul article de loi qui parle pas soit de manière affirmée, soit de manière subtile, d'une petite idée de rythme ou de temporalité. Du coup, suite à mes études de droit, je pars en master de géopolitique. Et là, pour le coup, je vais essayer de fabriquer vraiment une pensée politique sur le temps. Genre, le temps, c'est quoi, etc. Et là, je quitte la part émotionnelle, toutes les intuitions, l'instinct et tout vis-à-vis de cette question. Et j'essaie de la rationaliser au maximum pour la réfléchir. Après, bien sûr, elle est aussi nourrie de toute manière, tout ce que je dis est nourrie de qui je suis, d'où je viens et de tout ce qui me traverse. Et du coup, j'arrive en master de géopolitique. Et il s'avère que la géopolitique, c'est en gros l'étude de l'espace. Et plus précisément, l'étude et l'analyse des enjeux de pouvoir sur les territoires. Du coup, je choisis un espace qui est le Sahara, qui est un désert, qui est en Afrique, où je me dis, en fait, moi, je sais qu'historiquement, et même dans mon histoire personnelle, et même de ce que je sais, etc., cet espace, il a une histoire, Il y a des populations qui y vivent, qui le traversent, qui ont leur vision du monde et avec cet espace qui est dedans, etc., etc. Et du coup, comment en Europe on regarde le désert du Sahara? C'est quoi pour l'Europe le désert du Sahara? Ben, dans la plupart des livres, déjà, c'est comparé à la mer, comme quoi, du coup, un espace pas habitable, un espace vide. Ça revient souvent le mot que c'est un trou au milieu d'une carte, que c'est un no man's land, que c'est... voilà, genre dans la pensée, dans la vision spatiale de l'Europe, comme le désert fait pas partie de son monde, et ben du coup le désert n'existe pas, alors même que c'est quand même un des espaces les plus vastes au monde, et qu'il est un des points de jonction et un des territoires les plus précieux et les plus importants de l'histoire du continent africain. Bref, et du coup, j'en viens à cette conclusion-là en analysant l'espace, notamment le Sahara, les déserts. Je me dis, ah ouais, en fait, ce qui s'est passé, c'est que à un moment donné, il y a des Européens, ils sont arrivés, ils ont dit, on va tout figer, tout quadriller, tout murer, et y compris dans des espaces comme le désert, là où il y avait des populations qui, elles, bah, ont une vision du monde qui est... Qui est mobile, qui bouge, qui est fluide, qui est pas figé, qui est pas statique. Et du coup, je me retrouve à me dire, toute la conception de la géographie qu'on a et avec laquelle on grandit, eh ben, en fait, elle a rien à... Enfin, ouais, c'est de la construction, et c'est une vision du monde d'un point de vue de dominant vis-à-vis de populations dominées. Et c'est là que je capte aussi tout l'enjeu qu'il y a entre les visions et les perceptions nomades du monde et les visions et les perceptions sédentaires du monde. À partir de quand la géographie, elle a dû être figée? À partir de quand l'espace, il a dû être figé? En fait, c'est pas vrai qu'il y a plus de peuples ou de personnes sédentaires dans le monde que de personnes nomades. C'est pas vrai, c'est juste qu'à un moment donné, il y en a une qui vient dominer sur l'autre, une vision du monde qui vient dominer sur l'autre. Et c'est la vision figée de l'espace qui vient de dominer, c'est la vision sédentaire. Et c'est celle à partir de laquelle on crée une temporalité propre à un espace et où on va figer en fait le mouvement. Et à côté de ça, t'as quand même des milliers de personnes, des millions, des milliards, j'en sais rien. Et moi, je m'en sens héritière du fait de venir de là où je viens, qui sont plus dans un truc de fluide, de mouvement, non, l'espace, il n'est pas figé. De la même manière, le temps, il n'est pas figé. Chez nous, chez les musulmans, le calendrier, il est lunaire, c'est-à-dire qu'il n'y a pas un 1er janvier fixe, comme il peut y avoir dans un calendrier judéo-chrétien. Le temps, il est en mouvement, le ramadan, il recule de quelques semaines chaque année, en fait, et il y a plein de calendriers dans le monde qui suivent plus les mouvements de la lune que les mouvements du soleil. En fait, c'est juste que ça vient frapper de plein fouet ce que je ressens depuis que je suis toute petite, c'est-à-dire cette ambiguïté d'être de demande à la fois un qui est complètement figé et dans lequel je me sens enfermée, que pour moi, je sais pas, c'est nécrosé, il y a quelque chose qui meurt, il y a quelqu'un qui est en train de me dire il y a un début, une fin, et tout est stagnant, comme de l'eau stagnante un peu, un truc comme ça. Et de l'autre côté, j'ai ma part qui vient d'un monde où tout est tout le temps en mouvement, où le rythme il change tout le temps, où tout bouge tout le temps, et qui suis héritière aussi de tradition du mouvement, de gens qui bougent dans les montagnes, de gens qui bougent dans le désert, de gens qui vont dormir tel soir à tel endroit et tel autre endroit, etc., etc. Et bref, il y a tout qui vient de se mettre en place comme ça dans ma tête. Et du coup, je me mets à étudier ce truc-là les enjeux de pouvoir sur les temporalités, sur le temps, et je capte que bah, toute la domination coloniale se fait essentiellement sur ça. Enfin, beaucoup, en tout cas sur ça, et que c'est un... pas un manque à penser, mais en tout cas c'est un truc que j'ai envie de creuser, etc. Et qu'après, bah, du coup, ça vient m'apaiser sur plein de bribes de ma vie où, bah ouais, le rythme, que ce soit à l'école, le rythme, tous les rythmes toujours imposés du quotidien, il y a toujours un dominant qui impose son rythme à un dominé. En fait, les rapports d'oppression, ils sont dans les rythmes et dans les temporalités. Mais même dans le très particulier, dans la relation personnelle, dans, je sais pas, dans la relation de couple, dans la relation amicale, dans la relation familiale, dans tout, il y a des enjeux de pouvoir qui se jouent sur les temporalités. Et c'est de la même manière que ça se joue sur l'espace. Et du coup, je m'arrête à cette idée de... ouais, l'État, en gros, pour rester que sur ce volet-là, bah, les deux armes de l'État pour pouvoir dominer l'espace-temps des gens, c'est d'un côté la police et de l'autre le droit. Et là, bah, t'as un combo parfait qui te fait un État qui régit et contrôle absolument tout ce que t'es. Et du coup, pour pousser l'analyse plus loin et pour pouvoir aller le creuser encore et critiquer encore plus, j'ai commencé à travailler cette question de temps sur, d'un point de vue anticarcéral et sur les prisons. Et parce que les prisons, c'est quand même l'endroit au monde où l'espace-temps est le plus réduit, le plus contraint et le plus resserré, où en plus d'être à l'écart entre des murs et dans un espace différent du reste... des moldus, les prisonniers sont aussi soumis à des rythmes qui leur sont propres et en fait ils sont tout le temps oppressés par le temps, que ce soit tes délais d'appel, ton mandat de dépôt, le temps que tu passes en QHS, le temps que tu passes à l'isoloir, enfin tous les trucs, ton parloir, t'as le droit à tant de parloirs, tout le temps, la moindre petite parcelle de temps, les temps de douche, tout vient être contrôlé et du coup ça devient l'espace de contrainte par excellence, et celui où du coup ce truc de l'État domine par le temps se lie le plus facilement pour moi. Elles se construisent à partir du moment où les gens s'accaparent leur espace, de leur temporalité, et du coup à partir de là vont se mettre à fabriquer d'autres visions du monde. Et du coup c'était l'exemple que je donnais, toutes les révolutions ont leur propre calendrier, il va y avoir un truc de les rythmes vont être redéfinis, même les rythmes de la vie du quotidien, même les rythmes de la journée, etc. Ouais, toutes les résistances au système de domination vont aussi passer par ce truc de se réapproprier sa propre vision du temps et sa propre vision du monde. Et même dans le très particulier, là, si je quitte le domaine géopolitique, dans le très particulier, si on regarde les mouvements féministes, les mouvements antiracistes, tous les mouvements contre l'homophobie, la transphobie, tout est une question de réappropriation de rythme, de temps, et avec, par exemple, la France va t'apprendre, le calendrier il commence à la naissance de Jésus-Christ, un état c'est un cadre spatial, du coup, des frontières, etc., comme on a déjà dit, mais aussi un cadre temporel, c'est-à-dire avec ses dates clés, ses jours clés, la fête nationale, tout ça, et en face, on va, dans les résistances, on va réaffirmer notre propre histoire en réaffirmant nos propres dates. Je pense par exemple, dans les mouvements antiracistes, évidemment le 17 octobre est une date qui qui fait partie de nos calendriers de lutte, tout comme le 8 mai fait partie de nos calendriers de lutte. Le 25 novembre, pour les féministes, pareil, c'est une date clé. Et il va y avoir des trucs comme ça où on va se réapproprier nos temps, déjà dans l'aspect d'une histoire collective. Parce que là, je donne des exemples de dates qui vont faire écho et qui vont devenir comme des modèles temporels pour plein de personnes qui vont se réapproprier ces dates-là. Mais aussi dans les rythmes particuliers, que ce soit, que ce soit comme dans le très très particulier, de dire là, c'est pas le moment pour moi de discuter de ça, là, pas le moment pour moi de faire de la pédagogie, c'est déjà reprendre la main sur son rythme et sur sa temporalité. En vrai, déjà, dire j'ai pas le temps, c'est une énorme résistance.
Zéro rythme, 3600 secondes de pur bonheur.
60 minutes d'émotion.
Une heure pour dire quelque chose du monde.
Salut! C'est tous mes copains! Prenez le rythme, prenez le rythme, venez les gars, prenez le rythme!
Petit souvenir d'enfance, quoi. Je pense que je l'ai écouté et regardé à peu près des dizaines et des dizaines de fois ce film. Je crois que ça me donnait grave envie de bouger, avec des ramoneurs qui dansent sur les toits et une famille bien bourgeoise qui est effrayée de voir tous ces ramoneurs qui débarquent dans les salons. Et voilà, et ça vient d'un Disney de 1964, Mary Poppins, pour ceux et celles qui l'avaient pas reconnu.
C'est un rythme de candombe uruguayen. Je l'ai choisi pour plein de raisons, mais notamment parce que sa danse est à la fois légère et combative. Ça se marche au pas, en défilé, la tête haute, en remuant du popotin, et c'est super agréable.
C'est Ella Fitzgerald. C'était mon premier CD à moi, rien qu'à moi. Je l'écoutais en boucle quand j'étais petite. Et j'adorais les passages de scat. C'est ce qu'on va entendre là. De l'impro avec des syllabes, des onomatopées rythmiques et des imitations vocales d'instruments de musique. J'adore.
Préambule aux instructions pour remonter une montre. Julio Cortázar, extrait de Chronop et fameux 1962.
Pense-y bien.
Pense-y bien. Lorsqu'on t'offre une montre,
on t'offre un petit enfer fleuri,
une chaîne de roses.
rose.
Une geôle d'air.
On ne t'offre pas seulement la montre.
Joyeux anniversaire.
Nous espérons qu'elle te fera de l'usage. C'est une bonne marque suisse à encre à rubis. On ne t'offre pas seulement ce minuscule pivert que tu attacheras à ton poignet et promèneras avec toi. On t'offre...
On l'ignore. Le plus terrible, c'est qu'on l'ignore.
On t'offre un nouveau morceau fragile et précaire de toi-même.
Une chose qui est toi, mais qui n'est pas ton corps.
Qu'il te faut attacher à ton corps par son bracelet, comme un petit bras désespéré agrippé à ton poignet. On t'offre la nécessité de la remonter tous les jours. L'obligation de la remonter pour qu'elle continue à être une montre.
On t'offre l'obsession de vérifier l'heure aux vitrines des bijoutiers.
Aux annonces de la radio. À l'horloge parlante. On t'offre la peur de la perdre.
De te la faire voler.
De la laisser tomber et de la casser. On t'offre sa marque. Et l'assurance que c'est une marque meilleure que les autres.
On t'offre la tentation de comparer ta montre aux autres montres.
On ne t'offre pas une montre. C'est toi le cadeau. C'est toi qu'on offre. C'est toi qu'on offre pour l'anniversaire de la montre.
Je n'ai pas encore eu le malheur d'être de l'après-midi ou de soirée.
Commencer à 16h, finir à minuit.
Ici,
tout le monde s'accorde à dire,
et j'en conviens jusque-là,
que plus tu commences tôt,
mieux c'est, sans compter les heures de nuit payées 20% de plus.
Comme ça, t'as ton après-midi.
Quitte à se lever tôt,
autant se lever tôt.
Mon cul.
T'es 8 heures de boulot.
C'est 8 heures de boulot à quelque heure de la journée.
Et puis,
quand tu rentres,
à la débauche,
tu rentres.
Tu zones.
Tu comates.
Tu penses déjà à l'heure qu'il faudra mettre sur le réveil.
Peu importe l'heure.
Il sera toujours trop tôt.
Après le sommeil de plomb.
Les clopes et le café du réveil avalé.
À l'usine.
L'attaque est directe.
C'est comme s'il n'y avait pas de transition avec le monde de la nuit.
Tu re-rentres dans un rêve.
Ou un cauchemar.
La lumière des néons.
Les gestes automatiques.
Les pensées qui vagabondent.
Dans un demi-sommeil de réveil.
Tirer, tracter, trier, porter, soulever, peser, ranger.
Comme lorsque l'on s'endort.
Ne même pas chercher à savoir pourquoi ses gestes et ses pensées s'entremêlent.
À la ligne.
C'est toujours s'étonner qu'il fasse jour à l'heure de la pause, quand on peut sortir fumer et boire un café.
Je ne connais que quelques types de lieux qui me fassent ce genre d'effet.
Absolu, existentiel, radical.
Les sanctuaires grecs.
La prison.
Les îles.
Et l'usine.
On ne quitte pas un sanctuaire indemne.
On ne quitte jamais vraiment la tôle.
On ne quitte pas une île sans un soupir.
On ne quitte pas l'usine sans regarder le ciel.
La débauche.
Quel joli mot.
Qu'on n'utilise plus trop, sinon au sens figuré.
Mais comprendre.
Dans son corps.
Viscéralement.
Ce qu'est la débauche.
Et ce besoin de se lâcher, se vider, se doucher pour se laver des écailles de poisson, mais l'effort que ça coûte de se lever pour aller à la douche quand tu es enfin assis dans le jardin après 8 heures de ligne.
Demain.
En tant qu'intérimaire.
L'embauche n'est jamais sûre.
Les contrats courts sur 2 jours, une semaine tout au plus.
Ce n'est pas du Zola, mais on pourrait y croire.
On aimerait l'écrire, le 19e et l'époque des ouvriers héroïques.
On est au 21e siècle.
J'espère l'embauche.
J'attends la débauche.
J'attends l'embauche.
J'espère.
Bon, ben voilà, l'émission est finie. Merci.
Salut, salut.
Bon, ben bisous, à plus.
Merci, c'était super.
Ouais, voilà.
Merci.
Ouais,
ouais.
Allez, chou. Dédicace à Ludo et Chico qui sont pas là.
Ouais, voilà. J'avoue. Je sais pas qui sera pas là à ce moment-là.
Même dédicace à toutes celles et tous ceux qui sont pas là.
Voilà.
Ouais. Non, mais ils avaient pas le temps.
Toute l'équipe en fait. Qui est pas là.
Ouais, voilà. Bon, ben moi j'ai pas le temps, par contre, faut que j'y aille.
Hein. Allez, bonne fête de fin d'année aussi.
Bisous. 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 Celles qui sont dans nos cœurs.
Oui, oui, celles, oui, dédicace, celles et ceux qui sont dans nos cœurs.
Casse dédie.
Casse dédie.
Et c'est bientôt Noël.
Voilà. Ouais. Happy birthday.
On est confiné ou on n'est pas confiné?
Merry Christmas.
À moitié. Ouais.
Happy New Year.
Attention, bras zéro, l'émission juste avant le couvre-feu.
Oh. Bonne fête.
Bisous.
Bon, bah voilà, salut. Dans cette émission, on a parlé du rythme dans la musique. D'ailleurs, on va y revenir. De l'imposition du rythme comme outil de domination, du rythme binaire de la montre et des machines-outils, et des chut qui s'intercalent entre tout ça. Autour, on n'a pas creusé tous les rythmes qui sont imposés et avec lesquels on est obligé de dealer en ce moment. Confinement, déconfinement, couvre-feu, pas couvre-feu. Sortez, mais seulement en journée, de 7h à 21h pour aller travailler et consommer. Restez chez vous, entre 21h et 7h, pour dormir et regarder les experts à la télé. Sortez, l'été, pour faire tourner l'économie du tourisme. Restez chez vous, à l'automne, parce qu'on a encore supprimé des lits d'hôpital. Sortez, célébrez le petit Jésus en famille. Restez chez vous, le 31 décembre. On n'a pas non plus parlé des emplois du temps morcelés des femmes de ménage, le plus souvent racisées. On n'a pas parlé du travail de nuit qui bousille la santé. Du temps qui ne passe pas derrière les barreaux. Du rythme qu'on ralentit pour permettre à l'enfant de faire toute seule. Du rythme menstruel et du jour et de la nuit qui se succèdent indéfiniment. Du rythme qui ralentit quand le corps vieillit. Et du cœur qui tambourine quand on tombe amoureuse. Mais on a quand même réservé une heure de plus d'émission en janvier pour continuer de vous parler du rythme, des rythmes au travers du chamanisme, d'organisation autonome de l'école chez les NASA. Il y aura aussi un conte, des lectures et même un atelier jukebox. Et d'autres rythmes encore. On se quitte avec un bout de musique qui chamboule un peu les rythmes. Ciao!
Thank you.